Lavoie et Livonne. Au FM 93. Voici Luc Lavoie. Le prof Lavoie. Le prof Lavoie.
Bonjour, prof Lavoie, comment allez-vous?
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Je voulais te dire, avant de plonger dans notre sujet du jour, que j'ai fait mes devoirs en fin de semaine et que je suis allé voir le nouveau pavillon de l'Assemblée nationale.
Et alors?
Du très beau travail, Luc.
Ah oui?
Oui, c'est vraiment magnifique, c'est éclairé, c'est grand. On est en mesure d'accueillir les groupes de façon adéquate, chose qu'on pouvait pas faire auparavant. On était comme pogné un peu d'un corridor du Parlement, de l'hôtel du Parlement, alors que maintenant, on a l'agora qui est vraiment très éclairée, très grande. On va pouvoir s'adresser aux groupes qui se présentent pour visiter le Parlement. C'est vraiment très beau. Donc, quand tu viendras à Québec, on ira prendre un breuvage et on ira visiter le Parlement, si tu le veux bien.
Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la chose, qui sont allés visiter?
Oui, vraiment, ça m'a pris une demi-heure avant de passer la sécurité en fin de semaine. Détecteur de métal et rayon X, comme à l'aéroport. Mais tout de même, il y avait beaucoup de monde. Dimanche, il pleuvait. Samedi, il faisait très beau. Et dans les deux cas, il y a eu foule pour découvrir ce nouveau pavillon-là.
Formidable.
Aujourd'hui, je veux faire appel à ta mémoire et à tes connaissances géopolitiques pour faire un retour dans le temps. C'est les 30 ans du massacre de la place Tiananmen à Beijing. Ça s'est passé dans la nuit du 3 juin au 4 juin 1989. C'est l'armée chinoise qui a ouvert le feu sur des manifestants qui étaient rassemblés là. D'abord, mettons ça dans le contexte. Là, on est 2 ans et demi avant la chute du mur de Berlin. Où est-ce qu'on se situe en Chine là, en termes de démocratie versus communisme?
Je veux pas te relancer, on est à 1 an et demi de la chute du mur de Berlin à ce moment-là.
Vrai.
On est à, excuse-moi, le mur de Berlin est tombé en novembre 89. Alors, 89. Alors, on est donc à quelques mois de la chute du mur de Berlin. Et au départ, ces manifestations-là, qui ont abouti à ce massacre incroyable, avaient été, comment dire, organisées spontanément autour du décès d'un certain Hu Yaobang, qui avait été le secrétaire général du Parti communiste de la Chine, mais qui avait été déchu quelques années auparavant, justement parce qu'il était trop réformateur, qu'il croyait trop à la démocratie, qu'il pensait qu'il fallait adopter de plus en plus de méthodes capitalistes, par exemple pour les droits de propriété, tout ça, pour permettre à la Chine de continuer sa croissance. Il avait été déchu parce qu'on considérait qu'il allait trop loin. Et quand il est décédé, c'est à peine si les médias chinois ont mentionné la mort de quelqu'un. Ils ont même pas dit, c'était notre secrétaire général il y a encore 2 ans, tout ça.
Okay.
Et les étudiants ont dit, wow, nous autres, on veut des funérailles d'État parce que c'était notre héros. Puis les étudiants transportaient cette vision. Et il y avait un contexte à ça, là. Gorbatchev avait pris le pouvoir en 1985 et il avait enclenché ce qu'il avait appelé la perestroïka et la glasnost. Glasnost signifiant l'ouverture, donc moins de censure, plus de liberté, tout ça, la perestroïka signifiant une forme de réforme de la structure économique et de gouvernance du pays. Et il y avait toute une agitation là, au moment de 1989 où ça s'est arrivé. Oui. Déjà, les Hongrois avaient commencé à traverser la frontière du pacte de Varsovie pour s'en venir vers l'Ouest, puis on les laissait aller, puis il y avait des soulèvements un peu partout, puis il y avait le cas russe, puis on le sait, là, quelques mois plus tard, le mur de Berlin est tombé.
Ouais.
Alors, le gouvernement chinois, voulant éviter que ça aille trop loin, a décidé de céder un peu de terrain, puis il a décidé de faire des funérailles d'État à Hu Yaobang.
Okay.
Et là, ils sont tombés en bas de leur chaise, il y avait 100 000 personnes aux funérailles d'État. Là, ils se sont dit, oh boy, le régime est littéralement en danger. Et là, tu avais 3 hommes forts. D'abord, Deng Xiaoping, qui est celui qui, au début des années 80, a lancé la Chine vers ce qu'elle est devenue maintenant et qui a rétabli les relations diplomatiques formelles avec les États-Unis et avec de nombreux autres pays.
Okay.
L'ouverture de la Chine au monde. Donc, Deng Xiaoping, à ce moment-là, en 89, c'est déjà un vieillard. Mais en titre, c'est encore lui qui est le leader. T'as un autre, Zhao Ziyang, qui est effectivement le patron, et qui, lui, penche plutôt vers la méthode douce. On va leur parler, on va se parler. Puis t'as l'autre homme fort, qui, lui, est totalement à l'inverse, qui s'appelle Li Peng, qui est décédé depuis. Li Peng, c'est la ligne dure. On cède pas un quart de pouce. Alors, il y a cette espèce de montée. Puis là, les manifs commencent à se multiplier un peu partout en province, dans diverses autres villes, pas seulement à Beijing, tout ça. Et puis, soudainement, arrive un visiteur. Et c'était prévu que sa visite aurait lieu, mais quand ça avait été prévu bien avant que les troubles commencent, oui. Gorbatchev est invité à Pékin. Alors, il arrive à Beijing, dans le milieu de cette effervescence, et les étudiants qui avaient commencé à prendre place sur la place Tiananmen se servent de lui comme « c'est notre héros ». OK, Gorbatchev, pouvez-vous nous appuyer, dire que nous avons raison de réclamer des réformes? Gorbatchev, en fait, je m'en souviens très bien de ces images-là, il était un peu mal à l'aise. Il était assis devant un comité d'accueil militaire habituel, protocolaire, et il savait plus trop exactement ce qu'il devait faire.
Son objectif, c'était pas d'arriver en libérateur, là, loin de là.
Non, pas du tout. Et soudainement, il a été comme... Finalement, il a pas dit grand-chose, Gorbatchev, ou à peu près rien, à part que de sourire à quelques leaders étudiants. Mais ça, mais ce que ça a fait aussi, la visite de Gorbatchev, c'est que ça a amené en Chine des centaines et des centaines de journalistes. Gorbatchev, au moment de la perestroïka, de la glasnost, qui sera en Chine, l'autre grande puissance communiste, c'est un très grand événement. Mm-hmm. Alors... on déferlait sur Beijing pas loin de un millier de journalistes. Puis là, après le départ de Gorbatchev, ben là, les manifestations ont continué, puis elles ont pris de l'ampleur, et les journalistes ne sont pas partis, alors c'est devenu le monde entier avait les yeux rivés sur son écran. Et puis, à un moment donné, Zhao Ziyang, essayant de faire valoir l'approche souple, dit « je vais aller leur parler ». Alors, il a pris un porte-voix, puis il est allé parler aux étudiants, puis il leur a dit qu'il y aurait des réformes, puis que ce serait le temps de rentrer chez eux. Et là, les étudiants ont pas bougé. Alors, c'est là qu'ils ont fait entrer l'armée, mais okay. Au début, l'armée qu'ils ont fait entrer, c'était une armée sans armes, sans baïonnettes, sans carabines.
C'était pour les disperser, Luc?
C'était pour les disperser, puis pour... C'était comme un coup de semonce symbolique. C'est comme fête de l'air, là, vous voyez, là, on n'a pas d'armes, là, mais faites bien attention, ça se pourrait qu'on en ait.
OK.
Et là, ce qui s'est passé, c'est un phénomène assez extraordinaire. Tout le monde, les jeunes, les vieillards, les femmes, les hommes, tout ce que vous voulez, ont tout fait pour empêcher l'armée populaire de Chine de se déplacer. Bloquaient les chemins de fer, les empêchaient de débarquer des trains, patati et patata. Et c'est alors que Li Peng a pris le contrôle de l'appareil d'État puis qui a dit « Nous avons des forces spéciales ». Qui ne viennent pas, parce qu'en plus, il fallait savoir que la plupart des soldats qu'on avait envoyés sur Tiananmen Square, bien, ils n'étaient pas armés, mais en plus, ils n'auraient pas tiré. C'était des gens de la région de Pékin, ils ne voulaient pas tirer sur les leurs.
Est-ce qu'eux étaient plutôt sympathiques aux revendications des étudiants? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ou...
C'est difficile à dire. Ils étaient plutôt ils étaient plutôt d'avis qu'il ne fallait pas tirer sur les nôtres. C'était ça, fondamentalement, qui a fait qu'ils... Bon, ils les ont envoyés sans armes, puis ils ont dit, ben, vous allez aider à contrôler la foule. Puis rien, ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. Et là, Li Peng a pris le contrôle, puis a envoyé des forces spéciales qui n'avaient aucun lien émotif ou géographique ou autre avec Beijing.
Eux, c'était pratiquement des mercenaires pour l'État chinois.
Ouais, ils les ont envoyés armés jusqu'aux dents, avec des chars d'assaut, avec des mitraillettes, avec tout ce que vous voulez, puis ils ont décidé qu'ils nettoyaient la place Tiananmen, qui, je ne sais pas si tu as déjà été à Beijing, mais c'est le cœur. De la ville de Beijing, la place Tiananmen, c'est là que, puis le mausolée de Mao, puis bon, c'est une des grandes, grandes places en Asie.
Ouais.
Alors, pendant la nuit, alors qu'ils ont repoussé les journalistes, ils ont commencé par pousser les journalistes le plus loin possible, les seules quelques images qui existent sont celles qui avaient été tournées, je crois, par un caméraman de la CBC que je connais, qui s'appelle Scott Troyer, parce qu'il avait réussi à se cacher dans une espèce de crack puis attraper des images, parce que pour le reste, il les avait éliminés de la place. Et là, ben disons les choses comme on le dit au Québec, ces mercenaires, comme tu les as appelés, en tout cas ces forces spéciales, ont tiré dans le tas. Ils ont tiré dans le tas. Alors, ça a fait quoi? Ça a fait que, selon les chiffres officiels du gouvernement chinois, 241 morts, on s'entend plutôt pour parler de 3 ou 4 000 morts. Ils ont vraiment tiré dans le tas. Et là est arrivée cette image qui a marqué toute une génération, puis qu'on voit encore. Tu vois un convoi de chars d'assaut, là, des vrais chars d'assaut lourds à chenilles, là, qui avance, puis t'as un gars seul avec des sacs de shopping dans chaque main, qui s'installe debout en avant du premier des tanks. Puis là, le tank essaye de le contourner, puis le gars se tasse, puis il essaye de se contourner par l'autre côté, il se tasse encore. Puis il a réussi à bloquer la colonne de temps que cette image-là existe, elle est restée marquée dans nos esprits. Et bon, En bout de ligne, ça a donné quoi? Ça a donné que la Chine est devenue plus répressive qu'elle l'était, et c'est encore vrai aujourd'hui, plus dirigiste qu'elle l'était, plus directement impliquée dans la vie des gens qu'elle l'était, au point où aujourd'hui, ils ont mis en œuvre, et ça est en train de se faire au moment où l'on se parle, des caméras de surveillance de reconnaissance faciale. Ils sont littéralement capables de voir leurs 1. Quelques milliards d'habitants.
Ils sont même en train
100% du temps
d'attribuer des scores dans certains cas. Là. Oui. On est en train de pousser la technologie jusque là. Donc vraiment, la liberté de la presse puis la censure là-bas, c'est encore
total.
Très très répandu. Là.
Très 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 fort. Et ils ont beau essayer de nous chanter toutes sortes d'histoires, ça reste un régime répressif. C'est un régime qui a pas si longtemps été comme la Corée du Nord. Il l'est encore, sauf que maintenant, il s'est industrialisé, modernisé, enrichi, tout ce que tu veux. Mais effectivement, avec ces caméras qui surveillent les citoyens 24 heures par jour, il leur donne un classement. Si, par exemple, t'es quelqu'un qui fréquente souvent des bibliothèques, oups, ça te donne un score.
Ouais.
Si t'es quelqu'un qui fréquente souvent des débits d'alcool, oups, ça te donne un autre score. Si t'es quelqu'un qui se tient avec des dissidents, oh boy, ton score en prend pour son rhume. Et ça vient gouverner toute ta vie. C'est-à-dire que tu seras pas capable d'avoir de promotion si t'as pas le bon score. Tu seras pas capable d'entrer dans les facultés d'université si t'as pas le bon score. Alors, c'est un régime ultra répressif. C'est un grand paradoxe. On a toujours cru, et j'étais parmi ceux qui le croyaient, que avec la prospérité et la modernité viendrait une forme incontournable de démocratie.
Ouais.
Tu sais, l'idée qu'une fois les gens enrichis, une fois, tu sais, la vieille théorie marxiste, là, ça commence par le ventre, une fois que les gens ont bien mangé à leur faim, ont trouvé une zone de confort matériel et sécuritaire, on a toujours cru, je le croyais moi aussi, je le répète, que la prochaine étape, c'est que ce peuple-là va marcher tranquillement vers
une classe moyenne
démocratie.
Qui est en train d'émerger tout de même en Chine. Quand on les compare avec les Russes, où c'est plus pauvre, il y a régions de la Chine qui sont très, très riches. Et pourtant, en 89, sans dire qu'ils étaient au même point, c'était un régime qui se ressemblait pas mal.
C'est quand notre premier ministre Trudeau est allé là-bas en Chine pour faire... Il avait fait un fou de lui, littéralement. Il s'était fait... remettre à sa place par un des dirigeants chinois qui avait dit, écoutez, vous aimez pas notre approche de ceci, puis notre approche de cela, puis des droits des travailleurs, puis des droits des femmes, puis patati patata. On veut pas entendre vos leçons. Nous, ici en Chine, avec tous nos défauts, on a sorti 700 millions de nos citoyens de la pauvreté absolue. Alors, il y a ça aussi. Tu sais, quand on évalue l'affaire, on aime-tu mieux... la liberté démocratique qui se vit en Inde, par exemple, avec tout ce que cela implique de racisme et de tout ce que tu veux, je ne sais pas. Tu sais, quand on voit la Chine émerger comme la plus grande puissance au monde, il n'y a rien de particulièrement rassurant dans ça, entre autres parce qu'on n'oubliera pas et qu'il ne faut pas oublier les incidents de Tiananmen. Mm-hmm.
Aujourd'hui, Luc, c'est un sujet qui est tabou quand même en Chine. Et on va tout de même pas commémorer ça. Toutefois, il y avait quand même un ministre de la Défense qui, en fin de semaine, a pris le temps de justifier que ça avait été la bonne décision à ce moment-là. 30 ans plus tard, d'aller avec une déclaration comme celle-là, c'est rare qu'on en fait des déclarations comme celle-là dans le cas de Tiananmen, mais tout de même, ça m'a étonné de voir qu'on allait jusque-là de justifier un massacre sur sa propre population, même si c'est 30 ans plus tard.
Ouais, il y a ça, puis il y a aussi le fait que... Tu regardes aller les choses, ils ont tout fait, l'État chinois, pour empêcher qu'il y ait la moindre commémoration depuis 89, là. Ils ont pas permis qu'on célèbre le premier anniversaire, puis le 10e, puis le 15e.
Ouais.
Tu sais, ils ont fait... En fait, l'histoire chinoise officielle rapporte le massacre de Tiananmen comme étant une sorte de petit incident passager. Ils ont appelé ça, d'ailleurs, les incidents de Tiananmen.
Hmm.
Et pour le reste, il est défendu Il est défendu de manifester, cela va de soi, de célébrer. Et la place Tiananmen, moi, je ne l'ai pas vue depuis ce moment-là. J'avais été en Chine avant. Maintenant, paraît-il que c'est contrôlé, comme quand tu entres dans un aéroport.
Okay.
Puis ils vont tout faire. Il n'y en aura pas de manif. Puis dès lors qu'il y a plus que 10 personnes ensemble, des polices arrivent. Puis ils sont restés profondément traumatisés par ça, les autorités chinoises, parce que on dit aujourd'hui, peut-être que c'est vrai, que le régime a littéralement vacillé. et que les chocs à l'interne qu'il y avait entre des Li Peng, puis Zhao Ziyang, puis tous ces gens-là, avaient failli mener à la chute définitive du régime. Ils l'ont pas oublié, ils l'oublieront jamais. Ouais. Hein.
Merci beaucoup, prof Lavoie, très apprécié.
Avec plaisir.
À demain, mon cher.
Bye bye. Bye.